Deuxième livre, L'imitation du Christ. La cité qui est située sur une montagne ne peut être cachée. S'il y a un lieu du monde où l'on puisse continuellement se remémorer cette parole de Jésus, c'est bien la contrée de Sienne. Des collines fertiles qui s'élèvent au nord de la ville, du rempart de belles carreaux qui domine une forêt de chênes lièvres et de pins parasols, du désert aride et crevassé qui étend ses ondulations jaune-orange vers le sud jusqu'aux hauteurs bleues de Monte Oliveto, de Santa Fiora et de Monte Amiata. De tous côtés, plus proches ou plus lointaines, on aperçoit Sienne sur les sommets de ces trois collines. Sienne, avec la coupole bleu pâle de la cathédrale et le campanile de marbre noir et blanc. Sienne, avec les tours de l'église degli Servi, de San Francesco, del Carmine et de San Domenico. Sienne, avec la Torre del Monja, qui s'élève dans le ciel bleu, telle une tige rouge couronnée d'un lys de pierre blanche. La cité qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Et ce qui était vrai pour la ville le devint également pour sa fille la plus illustre, Catherine de Fontebranda. On lit souvent dans les vieilles légendes que là, la nuit, de la cellule d'un saint, on voyait une étrange lueur filtrée par toutes les fentes de la porte. Non pas la lumière des lampes ou des cierges, mais les puissants rayons d'une clarté surnaturelle qui émanait du cœur du saint pour se répandre sur le monde et en dissiper les ténèbres. Cette lumière qui avait rayonné de la chambre de Giovanni Colombini dans la Via di Città venait de s'allumer dans la cellule de Catherine, dans la Via dei Tentori, et se propagea tout d'abord dans la demeure de Giacomo Benincasa. Raymond fait observer avec beaucoup d'esprit que le sauveur, qui auparavant apparaissait à Catherine dans sa cellule, se présentait maintenant devant sa porte, en la priant d'ouvrir, non pas pour qu'il pût entrer, mais bien afin qu'elle sortît. Catherine lui répondait alors, avec l'épouse du cantique, « Je me suis dépouillée de toute préoccupation temporelle. Dois-je donc m'en revêtir encore ? J'ai purifié mes pieds de la poussière terrestre. Dois-je les en souiller à nouveau ?» Mais le Sauveur lui enseignait que la loi renferme deux commandements, l'un prescrivant l'amour de Dieu, l'autre l'amour du prochain. « Je veux que tu accomplisses ces deux préceptes, lui disait-il, que tu fasses la route sur ces deux pieds, que tu voles vers le ciel avec ces deux ailes. Es-tu d'ailleurs oublié ton zèle ardent pour le salut des âmes ? Ne te souviens-tu pas que tu voulais prendre des habits d'homme pour devenir frère prêcheur en pays étranger ? Tu portes à présent cet habit que tu as tant désiré. Alors pourquoi résister ? Pourquoi te plaindre ? Je n'ai en vue que de te faire réaliser ta vocation, à laquelle tu as été appelé dès ton enfance. » Cependant, Catherine se défendit encore. « Je ne suis qu'une femme ignorante, objecta-t-elle. Que pourrais-je bien faire ?»« Pour moi, répondit le sauveur, il n'y a ni homme, ni femme, ni savant, ni ignorant. Et sache que dans ces derniers temps, l'orgueil des prétendus savants s'est élevé si haut que j'ai résolu de les humilier. C'est pourquoi je susciterai des hommes et des femmes ignorants, remplis d'une sagesse divine, qui confondront leur science imaginaire. Et voici que j'ai décidé de t'envoyer toi aussi vers le monde. Je te guiderai en toutes circonstances et ne t'abandonnerai jamais, car où que tu ailles, je serai toujours avec toi. » Alors Catherine inclina la tête et la soumission emplit son cœur. « Je suis la servante du Seigneur. » Puis, comme à l'ordinaire, Jésus récita l'office avec elle. Mais quand midi sonna, il lui dit, « Voici l'heure du repas, des tiens. Lève-toi et va prendre place au milieu d'eux. Tu reviendras ensuite vers moi. » Catherine se mêla donc désormais à la vie de ses proches et prit part à tous les travaux domestiques. Dès que cette douce vierge, dit Caffarini, eut reconnu que c'était la volonté de son époux qu'elle vécut parmi les hommes, elle résolut de vivre de telle sorte qu'elle pût leur servir de modèle et s'employa à leur service, non plus par contrainte comme naguère, mais librement et remplissant de bon gré plusieurs offices dans le ménage. Quand tous étaient couchés, elle faisait une ronde dans la maison, rassemblait tout le linge sale et passait la nuit à le laver. À un moment donné, la servante étant tombée malade, Catherine subvint à tout. Elle pétrissait la pâte et faisait cuire le pain, et cela si promptement que l'on pensait autour d'elle que la Sainte Vierge lui venait en aide. Le nombre des habitants de la maison Benincasa s'était accru. Les enfants avaient grandi et les petits-enfants montaient et descendaient les escaliers en courant, ainsi que Catherine et Stefano autrefois. Catherine, qui à l'exemple de toutes les Italiennes adorait les enfants, était une très bonne tante. « Si c'était convenable, disait-elle, je passerais mon temps à les embrasser. » Elle s'était tout particulièrement attachée à sa belle-sœur Lisa Colombini, la femme de Bartolomeo. « Ma belle-sœur selon la chair, mais ma sœur dans le Christ », comme elle avait coutume de l'appeler. Depuis 1352 déjà, Lisa était Montelata, et deux de ses filles entrèrent en religion chez les dominicaines du couvent de Sainte Agnès à Montepulciano. Plus tard, Lisa accompagna Catherine dans ses voyages et a beaucoup parlé d'elle à Raymond des Capoues. Ce fut elle, par exemple, qui découvrit que sa belle-sœur possédait le don de double vue. Un matin, Lisa étant allée se confesser sans en avertir personne, fit une confession générale dans un coin isolé d'une église éloignée. Mais quand elle rentra, Catherine s'avança à sa rencontre en souriant. « Lisa, tu es une bonne fille, » dit-elle. Et comme sa belle-sœur paraissait surprise, elle lui laissa entendre que rien ne lui échappait et ajouta « Je t'aime de toute mon âme et t'aimerai toujours infiniment pour ce que tu as fait ce matin. » Une autre fois, elle ressentit moins de joie de ce qu'elle vit ainsi à distance. C'était vers le soir. Elle venait de réciter les vêpres. Lorsque tout à coup, elle se sentit environnée d'une intolérable odeur de pourriture. C'était l'affreuse puanteur par laquelle d'ordinaire le péché lui était révélé et qui plus tard, à la cour pontificale, devait presque la suffoquer. Et voici qu'elle aperçut au loin l'un de ses jeunes frères en train de commettre un péché grave. Catherine attendit son retour au foyer et l'accueillit avec ces paroles. « Je sais d'où tu viens et comment tu as souillé ton âme. » Fût-ce ce frère ou un autre qui plus tard quitta Sienne pour aller tenter fortune à l'armée. En tout cas, ce dernier échoua misérablement et finit par se trouver seul, blessé et malade en pays étranger, se croyant sur le point de mourir. Mais de loin, le regard de Catherine veillait sur lui. Sa prière fut exaucée et un jour, comme l'enfant prodigue, il revint frapper à la porte de la maison paternelle. Peut-être fût-ce pendant le joyeux repas qui suivit ce retour que Catherine vit Jésus assis à table au milieu d'eux, les bénir. Le confesseur de Catherine, son ami d'enfance, Tommaso della Fonte, fit également l'expérience du don de double vue qu'elle possédait. Un jour, comme elle était malade, il vint lui rendre visite dans la matinée. « Père, dit-elle tout à coup, à quoi étiez-vous occupé ?» Hier à 3 heures de la nuit. Que pouvais-je bien faire ? S'exclama le dominicain. Vous ne voulez pas me le dire, mais je le sais. Vous écriviez. Non, répondit Tommaso après quelques instants de réflexion. C'est vrai, repartit Catherine. Vous n'écriviez pas vous-même, mais vous dictiez à un autre. Le dominicain dut en convenir. Et que dictais-je donc ? Interrogea-t-il. Catherine hésita une minute, puis elle reprit lentement. « Vous faisiez noter les faveurs que, dans sa miséricorde, le Seigneur daigne accorder à la servante inutile que je suis. » Le cercle qui se formait autour de Catherine s'élargissait peu à peu. Le moine, qui en cette circonstance avait servi de secrétaire ou confesseur de la jeune fille, se nommait Bartolomeo di Dominici. Peu de jours après, le père Tommaso della Fonte l'emmenait avec lui chez son ami d'enfance. Il devint rapidement un hôte assidu de la petite cellule de Catherine. À l'époque où je fis sa connaissance, raconte-t-il lui-même, elle était jeune et son visage paraissait doux et gai. J'étais jeune également, et cependant je n'éprouvais jamais en sa présence l'embarras que j'eusse ressenti devant toute autre jeune fille. Et même, plus je causais avec elle, plus les passions humaines s'éteignaient dans mon cœur. Bartolomeo di Dominici semble lui aussi avoir nourri certains doutes quant à la faculté de seconde vue dont jouissait Catherine et l'a mis à l'épreuve. Mais elle en triompha dans diverses occasions. Entre autres, elle lui dit un jour l'avoir vue la veille au soir en compagnie de trois autres frères qu'elle lui nomma dans la cellule du prieur et précisa le sujet de leur entretien. Puis elle ajouta « Je veille et prie toujours pour vous jusqu'à ce que la cloche du couvent sonne matine. Et si vous aviez de bons yeux, vous pourriez me voir, comme je vois chacun de vous en particulier, comme je vois où vous êtes et ce que vous faites. » Ainsi que tous les Toscans, Catherine avait une prédilection marquée pour les fleurs. Aujourd'hui encore en Toscane, les grandes fêtes religieuses sont en même temps des fêtes de fleurs. Dans les plus petits villages, les chemins que doit suivre la procession en sont jonchés et le carrelage des églises disparaît sous une mosaïque de genêts d'or et de coquelicots rouges se détachant sur un fond de buis vert entouré de feuilles de laurier. Quand les contrades siennoises célèbrent la fête de leur saint patron, le prêtre bénit des bouquets de fleurs qu'on distribue pendant la messe. À Florence, le jour de la fête de San Zenobio, des paysans se tiennent sur les marges du dôme avec de grandes corbeilles pleines de roses rouges qu'achètent tous ceux qui entrent dans l'église. Tous les autels sont fleuris et le frais parfum des roses vermeilles embaume la vaste cathédrale Santa Maria del Fiore, Santa Maria dei Fiori. Catherine, elle aussi, avait la passion des fleurs. Dans ses rêves, elle voyait des anges descendre du paradis avec des guirlandes de lys et les lui poser sur la tête. Quand elle errait solitaire dans le jardin sur le toit de la maison, elle se plaisait à réunir en forme de croix de petites fleurs qu'elle envoyait ensuite par l'intermédiaire du père Tommaso aux personnes pieuses, comme le salut d'une sœur dans le Christ. L'un de ceux qui recevait ainsi le salut fleuri de Catherine, Antonio di Nasi Caffarini, devait se placer au nombre de ses disciples les plus zélés et ses inlassables défenseurs. Il était de 2 années plus jeune que Catherine, et de même que Tommaso della Fonte et Bartolomeo di Dominici appartenaient à l'ordre dominicain et au couvent situé sur la colline de Camporeggi. Il avait fait personnellement sa connaissance aux environs de 1366, s'asseyait à table avec elle dans la maison du teinturier, mangeait du pain qu'elle avait elle-même pétri, il en garda un morceau comme s'il eût été une relique, et l'écoutait avec attention lorsque, dans le feu de son enthousiasme, elle oubliait de manger.